Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
À toutes et tous, salut. On continue de prolonger cette enquête du naufrage, cette semaine avec une voix que vous connaissez de plus en plus, à force de l'entendre dans le générique du podcast.
C'est pas terrible, c'est une réalité dont on est tous coupables.
Mais réalité terrible.
Oui, mais dont on est tous coupables.
Marc Lévy est l'auteur français le plus lu dans le monde et aussi un des rares à parler des naufrages sur les routes migratoires et leurs victimes. Alors j'ai profité de sa promo pour son 25e roman, La Symphonie des Monstres, pour qu'on continue la discussion ensemble.
Non mais la réalité c'est que tant qu'un immeuble est en feu, vous n'empêcherez jamais les gens de sauter par la fenêtre. Personne ne va rester dans un immeuble qui brûle et attendre la mort. La question ne se pose pas. Donc tant qu'il y aura des pays où la répression, la torture, la misère est tolérée, il y aura des gens qui voudront aller vivre ailleurs. Et d'ailleurs, assez formidablement, les gens qui trouvent la force et le courage de vivre ailleurs sont probablement les gens les plus capables de faire des choses là où ils vont aller.
Marc Lévy est donc avec nous aujourd'hui pour nous raconter son rapport à ces drames et ces conflits, la Syrie, l'Ukraine, qui poussent des milliers de personnes sur les routes et qu'on retrouve dans ses derniers romans. Quant à moi, je m'appelle Sinamir, et ce que vous écoutez, c'est un nouvel épisode du Naufrage.
Il y a un silence assourdissant autour de ces morts.
Le sujet, c'est aussi les raccompagner, mais les raccompagner où ? Vous les ramenez en Libye ?
Vous avez des enfants, des femmes enceintes, qui meurent devant nous. Et on s'en fout, on n'en parle pas.
On voit deux mains se lever depuis le centre de l'embarcation avec un couffin dans les bras, quoi.
C'est ça qu'il faut bien comprendre. On n'est pas devant un phénomène qui va s'arrêter.
C'est une réalité dont on est tous coupables.
Réalité terrible.
Oui, mais dont on est tous coupables.
Bonjour Marc Lévy.
Bonjour. J'étais en forme.
Vous étiez en forme.
Mais ouais.
On vous entend en dernier dans le générique qu'on vient d'entendre dans ce podcast. Je racontais dans l'épisode 3 comment on s'était rencontrés en 2021 dans un studio radio au moment où vous vous insurgiez contre l'indifférence généralisée autour de ce naufrage qui a fait 130 morts et plus largement autour des naufrages en Méditerranée. Trois ans plus tard, j'ai donc réalisé cette série pour revenir sur ce drame qui témoigne notamment de l'inaction européenne en la matière. Je vous ai envoyé cette enquête et vous m'avez dit « Voyons-nous, pourquoi et qu'est-ce qui vous frappe trois ans plus tard ?»
Quand je travaillais pour Action contre la faim, et j'entendais souvent cette phrase, vous voyez, qui revenait, qui d'ailleurs assez étrangement, et je crois, est une phrase d'un homme de gauche, on peut pas sauver tous les malheurs du monde. Non, on peut pas les sauver, on peut pas éteindre tous les incendies du monde, mais on a fait quand même beaucoup d'efforts, et il y a une intelligence extraordinaire qui s'est appliquée. Et qui fait que il y en a beaucoup moins d'incendies. Oui, donc les drames de l'immigration sont devenus un sujet de polarisation de la société, de division de la société. Et finalement, je trouve, quand je dis qu'on en est tous responsables, c'est qu'il y a un problème complexe qui est celui de sauver des gens, de permettre à des gens de vivre, et en même temps de ne pas donner à la population la sensation qu'elle est envahie par ces gens qu'elle a sauvés, c'est le devenir de nos démocraties. Tu vois, c'est comme si on mettait aujourd'hui des enfants au monde et que on se disait, par exemple, la nourriture ou l'éducation, on verra ça plus tard. Si on veut vivre en démocratie, on ne peut pas passer à côté de ça. Et ça ne peut pas être en permanence des politiques qui sont tiraillées entre les mêmes considérations électorales ou politiques, et qui font que on passe notre temps à éteindre le feu. Il faut empêcher qu'il y ait un incendie. Mais quand il y a le feu, il faut avoir l'humanité d'éteindre le feu tout de suite. Il peut pas y avoir de considérations politiques qui viennent s'insérer entre ceux qui brûlent à l'intérieur de l'immeuble et ceux qui ont les lances d'eau. Enfin, vous voyez, pardon de cette métaphore.
Le problème, c'est qu'on le voit depuis 10 ans sur ce sujet. L'incendie est toujours là. Encore la semaine dernière, les dernières semaines, on a eu des opérations de sauvetage qui ont montré des drames, encore une fois, des naufrages. Là, plusieurs enfants impliqués au large de la Grèce, au large de Lampedusa. Ce naufrage atroce le mois dernier, lorsque les équipes de sauveteurs arrivent et retrouvent 25 personnes et une soixantaine sont décédées, elles, en pleine mer, pendant cette semaine à la dérive. Et pourtant, ce sujet reste condamné à l'oubli, en fait.
Alors, humainement parlant, c'est une aberration. Humainement parlant, c'est une aberration. Je sais pas, je crois pas qu'il y ait une volonté politique. Je pense qu'il y a une peur. Enfin, on peut voir la bouteille à moitié pleine ou la bouteille à moitié vide. Je ne crois pas qu'on puisse accuser, on va dire, les démocrates européens. Je ne parle pas des partis d'extrême droite. Et encore, je suis assez optimiste et humaniste pour imaginer que même ceux qui auraient l'arrogance de dire, bah, s'ils ont voulu prendre la mer, tant pis, ils ont qu'à mourir, ne le pensent pas au fond de leur cœur. Vous voyez, je crois pas qu'il y ait une volonté politique de ne pas aller porter secours. Il y a une peur politique d'aller porter secours. Pourquoi ? Parce qu'il y a, faut appeler un chat un chat. Beaucoup de gens pensent que ce risque de mourir en mer est ce qui retient grande quantité du flux migratoire. Vous avez des gens qui vivent en Libye notamment, parce qu'aujourd'hui ça vient de la Libye, qui vivent dans des pays où les femmes et les enfants sont mis en esclavage, où règnent des gangs, règne la torture, règne l'obligation d'adhérer à ces gangs, sinon on est exécuté ou les vôtres sont exécutés. C'est une forme, il y a une forme d'esclavage et que la vie est une torture. Donc ces gens, qu'est-ce qu'on a fait nous en France quand les Allemands nous ont envahis? Vous avez vu ces images de l'exode? On a migré. Vous voyez, c'est pas une question de nationalité. On ne migre pas parce qu'on est libyen ou parce qu'on est syrien ou parce. Et contrairement à ce que l'on pense ou à ce que l'on laisse entendre dans les rhétoriques, comme la très 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 grande majorité des gens qui sont conduits à l'immigration ne rêvent qu'une seule chose, c'est de rentrer chez eux et de vivre. Je me souviens quand la crise des réfugiés syriens, entièrement provoquée par Vladimir Poutine, parce que ça faisait partie de son plan de déconstruction de l'Europe. Je me souviens d'avoir lu une conversation d'un membre de la gouvernance de Poutine et dire « Mais pourquoi envoyer des soldats pour attaquer l'Europe? Il suffit d'envoyer des migrants et elle se détruira de l'intérieur. » C'était ça la logique. Quand j'ai écrit justement ce roman que vous citiez tout à l'heure, je m'interrogeais beaucoup sur les raisons qui poussaient la Russie à soutenir le terrible régime de Bachar el-Assad. Et je me disais, mais c'est fou, parce que pourquoi Poutine, va toujours du côté des bourreaux et des tortionnaires, alors qu'il avait là une occasion unique, par exemple, d'aller au secours de la population syrienne, et du coup, de se créer. Imaginez si Poutine avait sauvé la révolution syrienne d'émis Bachar el-Assad et installé une gouvernance même favorable à la Russie, personne n'aurait pu dire du mal de Poutine. Mais il a choisi de faire exactement le contraire. Et je m'étais beaucoup interrogé sur cela. En fait, il y a deux raisons. La première, c'est que les régimes autocratiques ont un absolu besoin que les révolutions faillent, hein, parce que la révolution, c'est contagieux. Donc si un peuple réussit à se débarrasser de son despote et de son dictateur, il va donner... Il va donner un espoir à un autre peuple. Donc, il y a une internationale des dictateurs qui s'est établie aujourd'hui. Et avant, souvent, les dictateurs se détestaient. Aujourd'hui, ils peuvent continuer à se détester, mais ils s'entraident. Et c'est très important pour eux, parce que c'est là où les conflits ont changé. C'est qu'aujourd'hui, ce sont deux modes de gouvernance mondiale qui sont entrés en guerre. Les dictatures contre les démocraties. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que qu'est-ce qui fait que des gens prennent la mer? Vous voyez, c'est-à-dire que la question que vous posez, il y a des gens qui prennent la mer, il y a des gens qui se noient en Méditerranée, il n'y a pas assez de moyens pour aller les sauver. Non mais la réalité, c'est que tant qu'un immeuble est en feu, vous n'empêcherez jamais les gens de sauter par la fenêtre. personne va rester dans un immeuble qui brûle et attendre la mort. Enfin, c'est et puis celui ou celle qui pense que ça devrait être le cas, il doit se dire mais si ma maison brûle, je saute par la fenêtre ou je reste à l'intérieur parce que si je saute par la fenêtre, je vais me retrouver dans le jardin de mon voisin. Et la question ne se pose pas. Donc, tant qu'il y aura des pays où la répression, la torture, la misère est tolérée, il y aura des gens qui voudront aller vivre ailleurs. Et d'ailleurs, assez formidablement, les gens qui trouvent la force et le courage de vivre ailleurs sont probablement les gens les plus capables de faire des choses là où ils vont aller. Donc la question, si on veut voir les choses, je pense, avec lucidité, sans détour, la question c'est, si on veut pas que les gens viennent du tout, il faut aller éteindre l'incendie, et puis il faut aller arrêter ceux qui foutent le feu. Alors, on rentre dans un autre débat politique qui est celui de l'interventionnisme ou du non-interventionnisme. Et puis aussi, parfois, dans certains endroits, d'aller payer les conséquences du bordel qu'on a mis nous, hein, et de l'instabilité qu'on a pu créer à tel ou tel endroit. Mais la réalité, elle est celle-là. C'est pas la peine de... tous les leaders politiques... Eric était aux États-Unis, on a eu le gros Trump... Vous voyez, il a fait un mur, il a fait tout le populisme du monde et il n'a pas du tout arrêté l'immigration. Donc là où je vous rejoins complètement, c'est que, bah oui, il y a une réalité. C'est assez, finalement, binaire comme situation. Vous avez des pays où la vie est impossible et donc les gens qui ont envie de vivre s'en vont et ils prennent la route. Et quand ils arrivent, alors il y a deux possibilités, hein, soit on les laisse mourir en mer et puis on perd notre humanité. Et c'est ce que les populistes et les extrémistes, enfin les partis d'extrême sont prêts à ça, hein, c'est ça, là, enfin la proposition de fond, la solution c'est ça.
J'ai retrouvé juste avant de venir une interview que vous aviez donnée à Var Matin en 2018 au moment où la France se refusait d'accueillir l'Aquarius. Et vous disiez « Ce n'est pas d'être un homme qui est difficile, c'est de le rester toute sa vie. Il suffit de quelques secondes d'inattention pour perdre une parcelle de l'humanité qui nous a été confiée. Je pense qu'il, et là vous vous adressiez à Emmanuel Macron, a perdu une part d'humanité, je n'en ai aucun doute. » On est d'ailleurs pour cet enregistrement pas très très loin de l'Élysée. Vous avez encore cette certitude et cette conviction qu'on a perdu en humanité du côté du gouvernement français, qu'on a perdu, en tout cas qu'on a laissé cette problématique des naufrages à nos voisins méditerranéens et qu'on est bien content de ne pas s'en emparer.
Je crois pas au jugement définitif. Je pense que il y a des moments, et particulièrement en politique, je n'ai pas de compétences politiques, je n'ai jamais été... responsable d'un gouvernement et donc je ne suis pas qualifié pour porter des jugements définitifs. En revanche, en tant que citoyen, j'ai le droit de dire à un moment donné, vous voyez, quand quelque chose qui a été fait déconne gravement. Mais si vous voulez être juste...
C'est votre moyen de lutter contre le tout responsable, tous coupables, c'est ça? C'est de dénoncer?
Je maintiens ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'au moment... au moment où ce drame se produit et où on refuse que le bateau vienne, on a cédé au populisme et on a perdu à ce moment-là notre humanité. Ce moment-là est un moment indigne. Mais ça ne veut pas dire que, vous voyez, on est indigne toute sa vie. Il y a une différence entre, à un moment donné, manquer de courage et être un lâche. Oui, voilà, je trouve qu'il est plus important que jamais d'avoir de la nuance. Et pourquoi je vous dis ça? Je vous dis tout ça parce que le problème de l'immigration, c'est pas un problème pour les partis d'extrême droite. C'est pas un problème pour les ultra-conservateurs. C'est du carburant. Ils s'en servent pour gagner des voix. Donc, si on veut protéger les démocraties, il faut aller sauver les enfants et les femmes et les hommes qui sont en mer, quelles que soient les raisons de leur départ. Je vous dis pas qu'une fois qu'ils sont arrivés, il faut leur donner immédiatement un permis de travail. Mais on peut pas les laisser mourir en mer. Il n'y a pas de débat. Voilà. Si vous me dites que il faut laisser un enfant se noyer, on n'appartient pas du tout à la même espèce. C'est-à-dire qu'il faut vraiment diviser l'espèce humaine. À un moment donné, il y a ceux qui ont un respect de la vie et une fascination pour la vie, puis ceux qui s'en foutent. Donc très bien. Ça c'est une première chose. Mais je crois qu'ensuite il faut faire un formidable travail, et notamment dans les médias, pour changer le regard qu'on porte sur l'immigration. Quand la crise syrienne a démarré, 100% des médias appelaient les réfugiés des migrants. Et à chaque fois que j'allais dans une rédaction, et je me souviens d'ailleurs très bien que ce fut le cas dans le cadre de cette interview dont vous parlez, j'ai dit à mon interlocuteur, pourquoi vous dites migrant ? Est-ce que vous voyez la différence symbolique, la différence de perception entre le mot migrant et réfugié ? Un migrant, quelqu'un qui migre, moi je suis un migrant par exemple, j'ai migré aux États-Unis et je suis un migrant, mais je suis pas un réfugié. Et vous voyez la différence de statut entre un migrant et un réfugié. Et les gens se disent, ah oui, oui, oui. Donc c'est un travail, en fait c'est un travail d'humanisation. Moi je vis dans un pays, et c'est quand même une histoire qui est intéressante, hein. L'Amérique, l'identité même de l'Amérique, c'est d'être une terre d'immigrants. Et cette nation, qui a démarré bien après les autres, est devenue le pays le plus puissant du monde. Ça raconte quand même quelque chose. Parce que l'Amérique, c'est exactement, quelque part, le projet dont on parle. C'est-à-dire que vous avez la peur avec la théorie du grand emplacement, et vous avez une nation qui s'est construite avec une agglomération d'immigrants. Et ce pays qui s'est construit avec en agglomérant les migrants, en agglomérant les intelligences, en agglomérant les cultures, en agglomérant les savoir-faire, oh, elle n'a pas été à l'abri des chaos, des guerres, des violences, des détestations et des défauts de l'homme. Mais elle est devenue plus puissante que la bonne vieille Europe, qui, elle, était une Europe, comme en parlent les conservateurs, des pays, une Europe des cultures où chacun restait chez soi. Je ne dis pas qu'il faut fasse exactement comme eux, mais il y a peut-être une idée à regarder de ce côté-là. Et il y a peut-être un regard sur l'immigration en se disant, mais peut-être un truc dans l'immigration, peut-être une valeur ajoutée. Comment on la travaille, cette matière ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, si on arrive d'un côté à changer notre regard sur l'immigration, si on arrive à être moins tolérant et moins pactisant avec les dictateurs, et si on arrive à faire finalement à faire payer très cher, le plus cher que l'on peut, les pays qui mettent sur les routes leur population, ben, peut-être qu'on aura, vous voyez, un début de solution à ces grandes crises migratoires.
Pour l'instant, l'Europe préfère financer la Libye pour gérer les sauvetages en Méditerranée, en tout cas les interceptions.
C'est un paradoxe quand même. Hein.
Donc on n'en est pas là.
En fait, aujourd'hui, on finance les pyromanes, vous voyez, pour qu'ils gardent chez eux les gens qui ont sauté par la fenêtre parce que les pyromanes avaient foutu le feu. C'est bizarre quand même.
Dernière question, puisque vous êtes un des rares à continuer ce combat depuis 10 ans, à vous exprimer sur le sujet. Pourquoi vous n'avez jamais écrit sur la Méditerranée et sur ces naufrages ? Est-ce que c'est trop loin de votre lectorat aussi ? Est-ce que c'est très difficile de sensibiliser sur ces sujets ?
Non, c'est que j'ai pas encore. Parce qu'en fait, c'est les sujets qui viennent enfin, c'est pas aussi simple que ça. Vous vous levez pas un matin. C'est que la différence entre le roman et le travail du journaliste, c'est que le journaliste aborde un sujet, il va enquêter, il va raconter factuellement. Mais moi, mon métier, c'est pas de raconter. C'est que quand j'écris, par exemple, la Symphonie des monstres et que je parle de la déportation des enfants ukrainiens par les Russes, j'écris pas un article de 400 pages. J'écris une histoire et il faut que vous soyez le personnage principal. C'est-à-dire, quand vous le lisez, il faut que vous soyez dans la peau de Valentin.
Et ça veut dire qu'on peut pas être le personnage principal de cette histoire-là. C'est une vraie difficulté. Hein. Parle très concrètement. Hein.
On peut, mais comment vous dire ? Ne croyez pas du tout que ma réponse est triviale. C'est comme si je vous disais pourquoi est-ce que vous êtes célibataire aujourd'hui ? Et vous allez me répondre parce que vous pensez que on ne peut pas tomber amoureux. Et vous allez dire, non, si, mais c'est parce que là, je ne l'ai pas rencontré. Et je vous dis ça parce que pour les histoires, c'est pareil. C'est-à-dire que si vous me demandez est-ce que le sujet de ces drames en Méditerranée me préoccupe, la réponse est évidente. Sinon, je ne serais pas, vous voyez, on ne serait pas là aujourd'hui et je n'en parlerais pas depuis 10 ans. Est-ce que la vie d'un des protagonistes est entrée au moins en moi de façon à ce que je puisse m'en emparer pour faire des faits, une histoire et un roman, ça c'est pas encore produit. Alors aussi parce que j'ai été accaparé par d'autres thèmes, par d'autres sujets, parce qu'on peut pas courir, voyez, tous les terrains. Mais ça viendra sûrement un jour.
Ma question, elle reboucle simplement avec le désintérêt de l'opinion publique, le désintérêt de l'audience pour ces sujets-là. On le voit avec des mesures statistiques quand un documentaire est fait à la télévision. Sur ce sujet-là, il y a moins de monde. On veut détourner le regard, on regarde ça de loin, on se dit que c'est pas notre réalité parce que les frontières déshumanisent aussi, donc sont des réalités qui sont très difficiles. La guerre déshumanise aussi, mais vous l'avez traité. Donc je me demande, est-ce que c'est aussi une difficulté de se dire comment je vais réussir à justement faire de mon lecteur ou ma lectrice le personnage principal qui s'identifie à cette situation.
La genèse d'un roman, elle est absolument incompréhensible. Quand j'ai commencé La Symphonie des Monstres, je travaillais depuis un an sur la séparation des enfants dont je vous parlais tout à l'heure par Stephen Miller et par le régime de Trump. Et je suis tombé sur un rapport qu'un copain reporter m'a envoyé qui était encore confidentiel. J'ai lu ce rapport. Et à la fin de la lecture de ce rapport, les personnages du roman étaient nés. Donc j'ai pu commencer à l'écrire. Et je ne sais pas pourquoi cette alchimie s'est produite là, à ce moment-là. Pour l'instant, le roman, il n'est pas né sur un naufrage en Méditerranée. Est-ce qu'il naîtra un jour ? Je suis sûr qu'il naîtra un jour. Parce que quand on est habité par quelque chose comme ça qui vous prend aux tripes depuis aussi longtemps, il y a un moment où ça aboutit. Mais... vous voyez, la gestation d'un roman, elle peut prendre 9 mois et elle peut prendre 5 ans. Et il y a un moment donné où ça vient. Et si vous le forcez, ça devient calculé. C'est-à-dire que si vous dites, non, c'est le moment, il faut... Donc, c'est pour ça. C'est la réponse la plus sincère que je puisse vous faire. Et c'est peut-être parce que, justement, je ne l'ai pas écrit, alors parce qu'il n'est pas encore là, que je ne serai pas dans l'opportunisme de ça. Cela étant, je pense qu'il y a des voies, et je vais vous retourner la question. Il y a une chose qu'on ne dit jamais quand on parle des gens qui sont sur ces bateaux. On donne leur âge, on donne leur sexe, on raconte souvent, parfois, l'horreur qui les a amenés, mais on ne dit jamais ce qu'ils faisaient dans la société civile.
C'est ce qu'on a essayé de faire dans le quatrième épisode de ce podcast en donnant des noms et des parcours de ces étudiants, de ces personnes qui ont justement pris ce bateau ce jour-là.
Et c'est vraiment, et je vous dis ça parce que on peut passer notre temps à désigner ceux qui ferment les yeux. Moi, je trouve qu'il vaudrait mieux mettre sur un podium ceux qui les ouvrent. Vous voyez, parce que donner envie d'être du bon côté de l'humanité, je crois que c'est plus accélérateur que d'essayer de stigmatiser ceux qui, par peur, ou par erreur, entre guillemets, vous voyez, verse du mauvais côté de la chose. Aujourd'hui, si on veut sauver des gens en Méditerranée, il faut changer et donc créer cette volonté. Il faut changer le regard qu'on porte sur l'immigration. Voilà, donc je vous dis juste, les médias qui veulent faire changer les choses doivent absolument faire changer avant toute chose le regard qu'on porte sur l'immigration.
Merci Marc Lévy.
Merci à vous.
Je rappelle pour celles et ceux qui veulent vous lire que La Symphonie des Monstres, votre 25e roman qui a pour théâtre l'Ukraine actuelle, édité chez Robert Laffont et Versilio, est en librairie. Je remercie également chez Paradiso toutes les personnes qui m'ont aidé à produire cet épisode et notamment Théo Albaric pour la réalisation. Et on se retrouve dès que vous voulez, même app, même podcast dans l'affaire. À très vite.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com